12e. Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Suite à la suggestion de plusieurs téléspectateurs allemands, Corinne Delvaux nous propose aujourd'hui une petite leçon de savoir-vivre. Comment coupe-t-on le fromage? Vous le savez tous probablement, la France est à juste titre très fière de ses fromages extrêmement variés et goûteux. Savez-vous que parlant de la France occupée par les Allemands, Winston Churchill a déclaré pendant la guerre qu'un pays capable de donner au monde 360 fromages ne peut pas mourir. Voilà qui nous a peut-être sauvés, nous les Français. Le général de Gaulle, lui, aurait décrété un peu plus tard, alors que la lourde tâche de gouverner le pays lui incombait, qu'on ne peut pas gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromages. Quoi qu'il en soit, la France est toujours là et elle a un gouvernement et toujours autant de fromages. Et voici aujourd'hui un monsieur français qui a invité à sa table un monsieur allemand à partager avec lui un magnifique plateau de fromage. Vous remarquerez que la production est en pingre, nous n'avons pu vous présenter les 360 fromages en question et que nous avons dû nous rabattre sur ce très modeste plateau. Un bon vrai camembert au lait cru et non pasteurisé, un magnifique morceau de Saint-Nectaire, un morceau de Roquefort et un chèvre en forme de pyramide. Bon, notre ami français, bien poli, propose à notre ami allemand d'entamer ce beau camembert. Miam! Au secours! Le voilà qui coupe allègrement le camembert en tranches. Quelle horreur! C'est comme si on arrachait les ongles à notre ami français. Mais non, voyons, on ne fait pas du tout comme ça. Le camembert se coupe toujours à partir du centre, mais oui, en portions triangulaires. Voilà, notre ami français propose un joli morceau à son compère allemand. En le coupant de la sorte, chaque convive profite du cœur bien moelleux, c'est le meilleur endroit du camembert. Un pur régal. Bon, notre ami allemand ne s'en laisse pas compter et attaque maintenant le roquefort qui n'est pas rond, lui, avec un bel entrain. Non, non, le voilà qui se coupe une tranche bien droite. Mais non, voyons, on ne prend pas la meilleure partie du roquefort pour soi tout seul. Ici aussi, le cœur est l'endroit le plus moelleux, le plus goûteux, et il faut le partager avec les autres. Notre ami français va lui montrer comment faire. On coupe le roquefort en tranches perpendiculaires au bord. Voilà, toujours dans le même esprit, chacun profite alors du cœur bien bleu et bien tendre et prend sa part de l'extérieur qui est plus sec. Notre ami allemand le fera dorénavant comme il faut. Osera-t-il se couper un morceau de Saint-Nectaire? Et schlack, rebelote, notre ami allemand coupe la pointe bien proprement, un joli triangle équilatéral, et là encore, il enfreint les bonnes manières. Eh oui, couper le fromage est tout un art en France, et les petits Français apprennent ça avec le lait du biberon. On coupe le Saint-Nectaire un peu comme le roquefort, en tranches dans la longueur, il en va toujours de la même chose, laisser à chacun un morceau du cœur bien tendre. Voilà, ce Saint-Nectaire a l'air fait à point, on en a l'eau à la bouche. Ultime tentative avec la bûche de chèvre que, vous l'aurez anticipé, notre ami allemand débite gentiment en tranches qu'il tartine aussi sec sur son bout de baguette comme pour en faire un sandwich. C'en est trop. Notre ami français lui montre comment tailler une pyramide. Il faut couper très délicatement un triangle fin à partir du sommet. Et jamais, jamais on ne tartine son pain de cette façon. Mon Dieu, là aussi il y a tout un art à respecter. On dépose sur son assiette un bout de fromage, on coupe un petit morceau de pain sur lequel on dépose un petit morceau de fromage, ça s'appelle un cavalier. On déguste cette bouchée qui permet au fromage de développer toute sa saveur. C'est délicieux et élégant.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Suite à la suggestion de plusieurs téléspectateurs allemands, Corinne Delvaux nous propose aujourd'hui une petite leçon de savoir-vivre. Comment coupe-t-on le fromage? Vous le savez tous probablement, la France est à juste titre très fière de ses fromages extrêmement variés et goûteux. Savez-vous que parlant de la France occupée par les Allemands, Winston Churchill a déclaré pendant la guerre qu'un pays capable de donner au monde 360 fromages ne peut pas mourir. Voilà qui nous a peut-être sauvés, nous les Français. Le général de Gaulle, lui, aurait décrété un peu plus tard, alors que la lourde tâche de gouverner le pays lui incombait, qu'on ne peut pas gouverner un pays qui offre 246 variétés de fromages. Quoi qu'il en soit, la France est toujours là et elle a un gouvernement et toujours autant de fromages. Et voici aujourd'hui un monsieur français qui a invité à sa table un monsieur allemand à partager avec lui un magnifique plateau de fromage. Vous remarquerez que la production est en pingre, nous n'avons pu vous présenter les 360 fromages en question et que nous avons dû nous rabattre sur ce très modeste plateau. Un bon vrai camembert au lait cru et non pasteurisé, un magnifique morceau de Saint-Nectaire, un morceau de Roquefort et un chèvre en forme de pyramide. Bon, notre ami français, bien poli, propose à notre ami allemand d'entamer ce beau camembert. Miam! Au secours! Le voilà qui coupe allègrement le camembert en tranches. Quelle horreur! C'est comme si on arrachait les ongles à notre ami français. Mais non, voyons, on ne fait pas du tout comme ça! Le camembert se coupe toujours à partir du centre, mais oui, en portions triangulaires. Voilà! Notre ami français propose un joli morceau à son compère allemand. En le coupant de la sorte, chaque convive profite du cœur bien moelleux, c'est le meilleur endroit du camembert. Un pur régal. Bon, notre ami allemand ne s'en laisse pas compter et attaque maintenant le roquefort qui n'est pas rond, lui, avec un bel entrain. Non, non, le voilà qui se coupe une tranche bien droite. Mais non, voyons, on ne prend pas la meilleure partie du roquefort pour soi tout seul. Ici aussi, le cœur est l'endroit le plus moelleux, le plus goûteux, et il faut le partager avec les autres. Notre ami français va lui montrer comment faire. On coupe le roquefort en tranches perpendiculaires au bord. Voilà, toujours dans le même esprit, chacun profite alors du cœur bien bleu et bien tendre et prend sa part de l'extérieur qui est plus sec. Notre ami allemand le fera dorénavant comme il faut. Osera-t-il se couper un morceau de Saint-Nectaire? Et schlack, rebelote, notre ami allemand coupe la pointe bien proprement, un joli triangle équilatéral, et là encore, Il enfreint les bonnes manières. Eh oui, couper le fromage est tout un art en France, et les petits Français apprennent ça avec le lait du biberon. On coupe le Saint-Nectaire, un peu comme le Roquefort, en tranches dans la longueur. Il en va toujours de la même chose, laisser à chacun un morceau du cœur bien tendre. Voilà, ce Saint-Nectaire a l'air fait à point, on en a l'eau à la bouche. Ultime tentative avec la bûche de chèvre que, vous l'aurez anticipé, notre ami allemand débite gentiment en tranches qu'il tartine aussi sec sur son bout de baguette comme pour en faire un sandwich. C'en est trop. Notre ami français lui montre comment tailler une pyramide. Il faut couper très délicatement un triangle fin à partir du sommet. Et jamais, jamais on ne tartine son pain de cette façon. Mon Dieu, là aussi il y a tout un art à respecter. On dépose sur son assiette un bout de fromage, on coupe un petit morceau de pain sur lequel on dépose un petit morceau de fromage, ça s'appelle un cavalier. On déguste cette bouchée qui permet au fromage de développer toute sa saveur, c'est délicieux et élégant.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Clara Vasseur est journaliste. Elle vit à Hambourg, mais en fait, elle navigue entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, elle nous présente une coutume française.
Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette étudiante allemande qui arrive à Paris début janvier et qui, prise d'une petite faim subite, entre dans la première boulangerie venue? Il n'y a pas vraiment le choix. Partout les mêmes gâteaux ronds avec l'étiquette « Galette des Rois ». Là, elle se dit, c'est incroyable, ces tendances aristocratiques des Français. Et elle s'offre une petite galette à l'odeur alléchante. Elle mord dedans avec enthousiasme. Catastrophe. Elle tombe sur quelque chose de dur et se casse une dent. Aïe, ou plutôt awa, comme on dit en Allemagne. En France, on appelle la fête des rois l'épiphanie. Un mot d'origine grecque, épiphaneia, qui signifie apparition. C'est en effet un 6 janvier que l'enfant Jésus est révélé aux rois mages, Caspar, Melchior et Balthazar. Et pour fêter dignement cet événement, on prépare la fameuse galette des rois. Un excellent gâteau à base de pâte feuilletée et de frangipane. Dedans, on cache une fève. Enfin, à l'origine, c'était une fève. Aujourd'hui, c'est une petite figurine en porcelaine. Les Français raffolent de ces fèves. Et même certains les collectionnent. Celui sur qui tombe la fève devient roi ou reine pour la journée. On lui met sur la tête une superbe couronne en carton doré et à chaque fois qu'il porte son verre aux lèvres, les autres crient avec enthousiasme « Le roi boit ! Le roi boit !» Les historiens peuvent bien se disputer sur l'origine de cette coutume païenne qui remonterait à l'époque romaine ou au Moyen-Âge, peu importe. En France, la galette des rois, c'est sacré. À la maison, chez grand-mère, au bureau, eh oui, surtout au bureau. Toute la France s'empiffre, toute la France tire les rois. Avec passion, et souvent avec du champagne. Et chaque année, on raconte à nouveau pour la millième fois aux collègues de bureau comment ça se passe en famille. Car il y a différentes manières de faire. Parfois, c'est le plus jeune qui doit se cacher sous la table pour répondre à l'aveugle à la question « Roudoudou, pour qui est ce morceau-là ? C'est pour papa, c'est pour tante Bernadette, etc. » Peu importe. L'important, c'est que l'on tire les rois et qu'on en parle. Il y a encore 20 ans, on tirait les rois uniquement le 6 janvier. Mais aujourd'hui, on mange de la galette de façon quasi ininterrompue, du 2 au 15 janvier. Les boulangers sont malins. Ils ont compris que les Français, ces anciens révolutionnaires, ont tous envie de devenir le roi ou la reine d'un jour. Et pour que chacun ait droit à son tour, ils vendent leur galette pendant 2 semaines. Encore une chose. Veillez à ce que cette fête, qui est déjà devenue païenne, ne se transforme pas de surcroît en un étouffe chrétien. C'est comme ça qu'on appelle en français un plat ou un gâteau très lourd, qui pèse tellement sur l'estomac qu'il risque d'étouffer toute personne normalement constituée. Donc, achetez de préférence votre galette chez un très bon boulanger.
Vous avez 1 minute avant la 2e écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Clara Vasseur est journaliste. Elle vit à Hambourg, mais en fait, elle navigue entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, elle nous présente une coutume française.
Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette étudiante allemande qui arrive à Paris début janvier et qui, prise d'une petite faim subite, entre dans la première boulangerie venue? Il n'y a pas vraiment le choix. Partout les mêmes gâteaux ronds avec l'étiquette « Galette des rois ». Là, elle se dit, c'est incroyable, ces tendances aristocratiques des Français. Et elle s'offre une petite galette à l'odeur alléchante. Elle mord dedans avec enthousiasme. Catastrophe. Elle tombe sur quelque chose de dur et se casse une dent. Aïe, ou plutôt awa, comme on dit en Allemagne. En France, on appelle la fête des rois l'épiphanie. Un mot d'origine grecque, épiphaneia, qui signifie apparition. C'est en effet un 6 janvier que l'enfant Jésus est révélé aux rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et pour fêter dignement cet événement, on prépare la fameuse galette des rois. Un excellent gâteau à base de pâte feuilletée et de frangipane. Dedans, on cache une fève. Enfin, à l'origine, c'était une fève. Aujourd'hui, c'est une petite figurine en porcelaine. Les Français raffolent de ces fèves et même certains les collectionnent. Celui sur qui tombe la fève devient roi ou reine pour la journée. On lui met sur la tête une superbe couronne en carton doré et à chaque fois qu'il porte son verre aux lèvres, les autres crient avec enthousiasme « Le roi boit ! Le roi boit !» Les historiens peuvent bien se disputer sur l'origine de cette coutume païenne qui remonterait à l'époque romaine ou au Moyen-Âge, peu importe. En France, la galette des rois, c'est sacré. À la maison, chez grand-mère, au bureau, eh oui, surtout au bureau. Toute la France s'empiffre, toute la France tire les rois. Avec passion, et souvent avec du champagne. Et chaque année, on raconte à nouveau pour la millième fois aux collègues de bureau comment ça se passe en famille. Car il y a différentes manières de faire. Parfois, c'est le plus jeune qui doit se cacher sous la table pour répondre à l'aveugle à la question « Roudoudou, pour qui est ce morceau-là ? C'est pour papa, c'est pour tante Bernadette, etc. » Peu importe. L'important, c'est que l'on tire les rois et qu'on en parle. il y a encore 20 ans, on tirait les rois uniquement le 6 janvier. Mais aujourd'hui, on mange de la galette de façon quasi ininterrompue, du 2 au 15 janvier. Les boulangers sont malins. Ils ont compris que les Français, ces anciens révolutionnaires, ont tous envie de devenir le roi ou la reine d'un jour. Et pour que chacun ait droit à son tour, ils vendent leurs galettes pendant 2 semaines. Encore une chose. Veillez à ce que cette fête, qui déjà devenue païenne, ne se transforme pas de surcroît en un étouffe chrétien. C'est comme ça qu'on appelle en français un plat ou un gâteau très lourd, qui pèse tellement sur l'estomac qu'il risque d'étouffer toute personne normalement constituée. Donc, achetez de préférence votre galette chez un très bon boulanger.
Vous avez 1 minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez 1 minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
En France, le journal dont Thomas Harms nous raconte maintenant l'histoire est une véritable institution. Allez, feuilletons-le ensemble.
Nous sommes mercredi dans le métro parisien. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? De nombreux passagers lisent un journal couvert de dessins noirs et rouges. Le Canard Enchaîné. Un drôle de nom, je vous le concède. Le touriste allemand se dit « Chouette, les Français ont gardé leur âme d'enfant, ils lisent des BD dans les transports ». Mais non, Le Canard Enchaîné n'est pas une BD, pas du tout. C'est un hebdomadaire d'investigation satirique qui fait trembler hommes et femmes politiques français quand ils le découvrent chaque mercredi. Le Canard Enchaîné est fondé en septembre 1915, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, par des journalistes antimilitaristes. Son drôle de nom fait référence au journal L'Homme Libre, un journal qui, après avoir été victime de la censure, s'était rebaptisé Homme Enchaîné. Homme Enchaîné, Canard Enchaîné. Ah oui, pardon. Expliquons à nos amis allemands qu'en français, un canard n'est pas seulement un animal, le mot signifie aussi journal. Le Canard Enchaîné est donc un joyeux mélange de dessins humoristiques, de calembours moqueurs et de révélations fracassantes. Mais ne vous arrêtez pas à son style un peu potache, car grâce à ses enquêtes sérieuses et sans concession, c'est aussi un puissant contre-pouvoir. En 1979, il révèle par exemple que le dictateur Bokassa a offert en catimini des diamants au président français Valéry Giscard d'Estaing. Puis en 1981, il révèle que son ministre du budget, Maurice Papon, a été un fervent collaborateur des nazis pendant l'occupation.
Au revoir.
Eh bien, Valéry Giscard d'Estaing ne sera pas réélu. Désolé, on ne pourra pas vous raconter tous les scandales provoqués par le canard, il y en a trop. Financement occulte des partis, fraude électorale, conflit d'intérêts, favoritisme, pot de vin, fraude fiscale, emploi fictif, On ne peut pas dire que le canard manque de sujet, tant la classe politique française lui donne du grain à moudre. Une des dernières grandes affaires date de 2017. Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, grand favori des sondages, est totalement discrédité par les révélations sur l'emploi fictif de sa femme Pénélope. Il ne sera pas élu et quittera même la politique. Certains vous diront que le canard enchaîné s'attaque très souvent à la droite. C'est possible. Mais disons plutôt qu'il adore de manière générale asticoter les puissants et le pouvoir en place. Chaque semaine, le journal est ainsi plein de ces petits ragots qui peuvent défaire une carrière politique. Et on le sait, ce sont souvent les politiques eux-mêmes qui instrumentalisent le journal en appelant la rédaction pour distiller des indiscrétions afin de faire chuter leur adversaire. Ça peut faire sourire, mais ça agace aussi le pouvoir. Au point qu'un beau soir, dans les années 70, des soi-disant plombiers se font pincer alors qu'ils sont en train de poser des micros dans les locaux de la rédaction. Il s'agit en fait d'espions de la DST, la Direction de la Sûreté du Territoire. C'est la fameuse affaire des plombiers, résultat des courses, un ministre de l'Intérieur ridiculisé et un canard qui gagne en crédibilité. Bon, le canard enchaîné n'est pas le seul média à enquêter sur le côté obscur du pouvoir, bien sûr. Mais il se distingue par son style. Il y a des jeux de mots et des dessins partout. Parmi la trentaine de journalistes de la rédaction, une dizaine sont des dessinateurs, dont, pendant 30 ans, feu le célèbre Cabu, assassiné en 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo. Vous pensez bien qu'un tel journal se doit de fonctionner sans publicité ni actionnaire. C'est ce qu'il fait. Et ça marche. Sans appli mobile, et malgré un site internet des plus basiques, 400 000 numéros sont écoulés chaque semaine. Et les comptes vont à merveille. 400 000, c'est peu comparé à la diffusion des journaux en Allemagne, mais en France, c'est beaucoup. Preuve que le canard enchaîné a bien une place importante dans la vie politique française.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
En France, le journal dont Thomas Arms nous raconte maintenant l'histoire est une véritable institution. Allez, feuilletons-le ensemble.
Nous sommes mercredi dans le métro parisien. Est-ce que vous remarquez quelque chose? De nombreux passagers lisent un journal couvert de dessins noirs et rouges. Le canard enchaîné. Un drôle de nom, je vous le concède. Le touriste allemand se dit « Chouette, les Français ont gardé leur âme d'enfant, ils lisent des BD dans les transports. » Mais non, le canard enchaîné n'est pas une BD, pas du tout. C'est un hebdomadaire d'investigation satirique qui fait trembler hommes et femmes politiques français quand ils le découvrent chaque mercredi. Le canard enchaîné est fondé en septembre 1915, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, par des journalistes antimilitaristes. Son drôle de nom fait référence au journal « L'Homme libre ». Un journal qui, après avoir été victime de la censure, s'était rebaptisé « Homme enchaîné ». Homme enchaîné, canard enchaîné. Ah oui, pardon. Expliquons à nos amis allemands qu'en français, un canard n'est pas seulement un animal. Le mot signifie aussi « journal ». Le canard enchaîné est donc un joyeux mélange de dessins humoristiques, de calembours moqueurs et de révélations fracassantes. Mais ne vous arrêtez pas à son style un peu potache, car grâce à ses enquêtes sérieuses et sans concession, c'est aussi un puissant contre-pouvoir. En 1979, il révèle par exemple que le dictateur Bokassa a offert en catimini des diamants au président français Valéry Giscard d'Estaing. Puis, en 1981, il révèle que son ministre du budget, Maurice Papon, a été un fervent collaborateur des nazis pendant l'occupation.
Au revoir.
Eh bien, Valéry Giscard d'Estaing ne sera pas réélu. Désolé, on ne pourra pas vous raconter tous les scandales provoqués par le canard, il y en a trop. Financement occulte des partis, fraude électorale, conflit d'intérêts, favoritisme, pot de vin, fraude fiscale, emploi fictif. On ne peut pas dire que le canard manque de sujets, tant la classe politique française lui donne du grain à moudre. Une des dernières grandes affaires date de 2017. Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, grand favori des sondages, est totalement discrédité par les révélations sur l'emploi fictif de sa femme Pénélope. Il ne sera pas élu et quittera même la politique. Certains vous diront que le canard enchaîné s'attaque très souvent à la droite. C'est possible. Mais disons plutôt qu'il adore de manière générale asticoter les puissants et le pouvoir en place. Chaque semaine, le journal est ainsi plein de ces petits ragots qui peuvent défaire une carrière politique. Et on le sait, ce sont souvent les politiques eux-mêmes qui instrumentalisent le journal en appelant la rédaction pour distiller des indiscrétions afin de faire chuter leur adversaire. Ça peut faire sourire, mais ça agace aussi le pouvoir. Au point qu'un beau soir, dans les années 70, des soi-disant plombiers se font pincer alors qu'ils sont en train de poser des micros dans les locaux de la rédaction. Il s'agit en fait d'espions de la DST, la Direction de la Sûreté du Territoire. C'est la fameuse affaire des plombiers, résultat des courses, un ministre de l'Intérieur ridiculisé et un canard qui gagne en crédibilité. Bon, le canard enchaîné n'est pas le seul média à enquêter sur le côté obscur du pouvoir, bien sûr. Mais il se distingue par son style. Il y a des jeux de mots et des dessins partout. Parmi la trentaine de journalistes de la rédaction, une dizaine sont des dessinateurs, dont, pendant 30 ans, feu le célèbre Cabu, assassiné en 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo. Vous pensez bien qu'un tel journal se doit de fonctionner sans publicité ni actionnaire. C'est ce qu'il fait. Et ça marche. Sans appli mobile, et malgré un site internet des plus basiques, 400 000 numéros sont écoulés chaque semaine. Et les comptes vont à merveille. 400 000, c'est peu comparé à la diffusion des journaux en Allemagne, mais en France, c'est beaucoup. Preuve que le canard enchaîné a bien une place importante dans la vie politique française.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.